Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce sera donc l'image du jour à Davos, en Suisse.
Donald Trump et Greta Thunberg, invités ce matin au Forum économique mondial, vont-ils se parler ou s'ignorer superbement comme lors du G20? Nous appellerons Martial You sur place dans un instant. Mais tout d'abord, cette valse des préfets en France qui en dit long sur l'ambiance qui règne au sommet de l'État en cette période de turbulence. Emmanuel Macron joue lui-même les DRH. Objectif, William Galibert, veiller à l'application stricte des consignes élyséennes sur le terrain. Pour le président, ça ne va pas assez vite.
Oui, le chef de l'État qui a l'habitude de vouloir tout gérer est fidèle à sa réputation. Presque un quart des préfets de France remplacés ou déplacés d'un département à un autre en à peine une dizaine de jours. Et c'est bien Emmanuel Macron qui a lui-même supervisé le mouvement, n'hésitant jamais à pousser ou au contraire à rayer des noms sur la liste. Une seule volonté, trouver en quelque sorte des courroies de transmission. Un proche du président assume: on veut des managers sur le terrain, dit-il, des femmes et des hommes qui connaissent parfaitement la feuille de route du gouvernement. En clair, pour être sûr que les réformes sont bien appliquées partout, l'Élysée choisit ses troupes. Et puis le profil de ces hauts fonctionnaires nouvellement nommés est très politique. Un exemple, Thierry Coudert, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et ancien élu parisien, vient d'être nommé en Seine-et-Marne, territoire convoité par le Rassemblement national. Des gens de confiance et de l'efficacité. Emmanuel Macron sait que c'est aussi là-dessus que se jouera sa possible réélection.
Les informations de William Galibert, l'incarnation de l'autorité plus que jamais nécessaire du point de vue de l'Élysée dans ce contexte de déchirement social. En 2 ans, les violences contre les policiers, les gendarmes et de manière générale contre toutes les personnes incarnant l'autorité sont en forte hausse. Les plaintes ont bondi de 18% en 2 ans d'après les chiffres de RTL, c'est du jamais vu. Du côté de la grève contre la réforme des retraites, le mouvement s'essouffle, toutes les lignes ont repris une activité quasi normale, les cheminots grévistes ont retrouvé leur poste.
Alors ont-ils vraiment été privés de salaire? Eh bien c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous Éric Vanier, bonjour.
Bonjour.
Voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon sur LCI dimanche.
De grâce, ne faites pas la feuille de paye zéro au mois de janvier. Étalez les retenues sur salaire pour que les gens puissent respirer et n'aient pas un mois qui soit un gouffre financier pour eux.
Un étalement des retenues sur salaire, c'est envisageable?
Non, et ce n'est pas moi qui le dis, mais la direction de la SNCF et celle de la ATP, les retenues sur salaire se feront cash. Il n'y aura aucun aménagement possible, ni étalement des prélèvements sur la fiche de paye, ni échange des jours de grève contre des jours de congé ou de RTT, ni possibilité de faire des heures supplémentaires pour alléger la note. Depuis le début du conflit, la position des deux entreprises n'a pas varié. Le temps des arrangements négociés avec les syndicats dans le cadre de protocoles de sortie de grève, c'est terminé.
Ça veut dire que certains grévistes auront un zéro pointé en bas de leur bulletin de salaire à la fin du mois.
Alors oui, à la RATP, mais pas tout à fait à la SNCF, où une astuce a été trouvée pour qu'aucun salarié ne reste complètement sur la paille, tout en maintenant le principe du non-étalement des jours de grève.
Qu'est-ce que c'est que ce tour de passe-passe?
Alors les cheminots qui se retrouvent sans le sou pourront faire jouer un dispositif existant qui n'est pas directement lié à la grève, l'avance sur salaire. Elle peut être demandée par les agents SNCF confrontés à des problèmes d'argent. Quel qu'en soit le motif, ce sera accepté, même s'il s'agit d'un gréviste, qui pourra donc percevoir fin janvier, par anticipation, une partie de son salaire de février. Au final, ça revient à un étalement des retenues qui ne veut pas dire son nom.
On découvre l'avance sur salaire donc avec Éric Vanier. C'était la question du 8h.
RTL Matin, 8h03.
Le choc d'épaule aujourd'hui à Davos, en Suisse, dans les Grisons, à l'ouverture du Forum économique mondial.
Deux discours ce matin aux antipodes. Celui du président américain Donald Trump, sorti de l'accord de Paris sur le climat, et celui de Greta Thunberg, la jeune égérie écolo de 17 ans, qui appellera l'auditoire à prévenir, je cite, d'une apocalypse climatique. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. La petite Suédoise et le grand Américain se parleront-ils enfin? C'est toute la question.
Alors oui, c'est le choc des extrêmes ici, hein, avec deux visions de l'économie, deux générations aussi qui s'affrontent. C'est aussi la première fois qu'ils sont à Davos le même jour. L'an dernier, Donald Trump avait annulé sa visite au dernier moment. Greta Thunberg avait déjà créé la sensation en 2019 pour sa première venue, en s'en prenant directement à l'hypocrisie des PDG présents.
Il est insensé que des gens soient rassemblés ici pour parler du climat et qu'ils viennent ici en jet privé.
Cette année, Davos se demande justement comment l'économie peut aider à lutter contre le réchauffement climatique. On est loin des thèmes de Donald Trump, bien sûr, qui viendra lui d'abord parler à ses électeurs en vantant son bilan comme il l'avait fait d'ailleurs ici en 2018.
L'Amérique est ouverte pour faire des affaires et nous sommes à nouveau compétitifs.
Parler du réchauffement climatique avec Donald Trump est une perte de temps, avait déclaré Greta Thunberg. Bah, on verra si les deux essaient quand même de se parler un peu dans les couloirs de Davos.
Merci Martial Liu, envoyé spécial de RTL à Davos. Donald Trump, loin de Washington, où s'ouvre aujourd'hui son procès en destitution au Sénat. Il ne comparaîtra pas directement. Il veut être acquitté au plus vite dès la semaine prochaine. C'est ce qu'il a demandé. Son camp a imposé le cadre des débats. L'accusation n'aura que 24 heures de temps de parole. L'enquête sur le Boeing ukrainien abattu en Iran au décollage. Un rapport d'enquête fait état à l'instant de deux missiles qui auraient été tirés. Le crash avait fait 176 morts.
L'inquiétude en Chine après un quatrième décès imputé à cette mystérieuse pneumonie qui touche déjà plus de 200 personnes.
Un homme de 89 ans a succombé. Cette fois, l'épidémie s'étend vers le nord et le sud du pays et elle inquiète effectivement à l'approche du nouvel an chinois où des millions de personnes vont se déplacer. Béatrice est une Française qui vit à Hong Kong depuis 30 ans.
On voit bien sûr de plus en plus de gens qui portent des masques, ça c'est une évidence. Et puis quand on prend le taxi, des petites choses comme ça, les chauffeurs de taxi vont ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait un petit peu d'air dans le taxi. Le masque va devenir obligatoire. Et on se lave les mains tout le temps, il y a des diffuseurs de savon un peu partout. Enfin on sent qu'il y a tout de même une inquiétude qui commence à se développer, ça c'est clair. Et surtout comme on n'a pas d'informations, c'est encore plus inquiétant en fait.
Béatrice qui avait déjà connu l'épidémie de SRAS en 2002-2003, elle répondait à notre correspondant à Hong Kong, Philippe Dova. L'Organisation mondiale de la santé doit se réunir en urgence. La sourde angoisse qui pèse sur les Juifs de France qui se sentent menacés d'après un dernier sondage IFOP. Ils sont 37% à se sentir menacés. Emmanuel Macron s'envole ce soir pour Jérusalem pour le lancement du 5e forum mondial sur la Shoah.
Où en est-on de l'antisémitisme en France? Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique et professeur à Sciences Po, sera en studio avec nous à 8h.
RTL Matin, il est 8h07.
Ces eurodéputés britanniques obligés de faire leur carton à quelques jours du Brexit.
Une profonde tristesse combinée avec certaines fureurs. On n'aurait jamais dû arriver à une telle situation.
Reportage à Strasbourg dans un petit instant sur RTL.
RTL Matin.
RTL, il est 8h08. La suite du journal, Jérôme Florin, Yves Calvi.
Dans 10 jours, nos voisins britanniques ne seront officiellement plus dans l'Union Européenne.
Le projet de loi de retrait est toujours en débat au Parlement en ce moment, sauf énorme coup de théâtre. Le 31 janvier, nos amis anglais seront out. Et à Strasbourg, les députés européens britanniques doivent vider leur bureau, souvent dans la douleur. Écoutez ce reportage de Yannick Collin.
Plein de boîtes, prêt à déménager.
Dans son bureau du Parlement européen, Richard Corbett a entassé 22 années de souvenirs. Ce député travailliste avait été élu pour la première fois en 1997 à Strasbourg. Il est très amer aujourd'hui.
Une profonde tristesse combinée avec une certaine fureur avec ce qui s'est passé. On n'aurait jamais dû arriver à une telle situation.
Et il l'avoue, il ne sait pas encore ce qu'il fera après le 31 janvier.
J'ai pas encore décidé, non.
Pas du tout, vous n'avez
non,
pas
du tout, non. Jusqu'à maintenant, j'étais tout à fait préoccupé à faire le bataille contre le Brexit. Peut-être qu'on reviendra un jour, il va falloir sans doute un peu de temps.
Christian Allard espère lui revenir très vite à Strasbourg. Ce Français, installé en Écosse depuis 32 ans, a été élu là-bas eurodéputé pour le parti indépendantiste écossais.
C'est difficile pour l'Écosse parce qu'on quitte l'Union Européenne malgré nous. Maintenant, à partir du 1er février, on commence vraiment pour être sûr que l'Écosse indépendante rejoigne l'Union Européenne. Tout le monde nous le dit ici, nous serons le bienvenu.
D'ailleurs, après le départ des députés britanniques, 46 sièges du Parlement européen resteront vides dans l'attente d'un futur élargissement. Alors pourquoi pas avec l'Écosse.
Yannick Collin, le prince Harry vient d'arriver au Canada. Il retrouve son épouse Meghan et leur fils sur l'île de Vancouver. Dimanche soir, on en parlait hier dans ce journal, il avait confié sa grande tristesse à l'idée de se mettre en retrait de la monarchie.
Du nouveau pour les collectionneurs d'armes et les chasseurs en France.
Tous les pistolets, les revolvers, les fusils, carabines civiles seront bientôt référencés avec une carte d'identité. C'est une décision du ministère de l'Intérieur qui doit encore être approuvée par la CNIL, hein, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Qu'en pensent les chasseurs du dimanche? Plutôt du bien, en croire ce reportage de Nicolas Bobby à Guégon, dans le Morbihan.
Un numéro d'immatriculation à vie, même pour les vieilles pétoires de grand-papa cachées au fond du grenier, c'est une petite révolution. Une traçabilité bien accueillie lors de cette battue par les membres de la société de chasse de Guégon.
Pour les armes qui ont été transmises de père en fils, quand on n'a rien à se reprocher, pour moi c'est très bien, ce sera une bonne chose. Ça donne certainement une image positive de la chasse, comme quoi les chasseurs ne sont peut-être pas tous que des voyous entre parenthèses.
Dans l'immédiat, l'arme que vous avez avec vous n'est pas immatriculé.
Mais c'est une arme qui a un numéro qui est répertorié chez l'armurier, tout simplement, et qui est à mon nom.
Avec des balles, ils ont tiré des sangliers, utilisé du gros plomb pour les chevreuils et les renards.
Elle aurait déjà dû être en application, cette immatriculation, parce qu'on ne peut pas laisser des armes comme ça librement dans la nature. Et depuis le mois de juillet 2018, toute transaction d'armes, même entre particuliers, doit faire l'objet d'une déclaration auprès d'un professionnel, c'est-à-dire auprès d'un armurier.
Pour éviter les vols, ces chasseurs bretons prennent déjà des précautions élémentaires en ne laissant jamais traîner un fusil dans leur voiture.
C'est toujours mieux. Reportage de Nicolas Bobby dans le Morbihan. Nouvelle hausse en vue des tarifs réglementés de l'électricité, 2,4% en mai au plus tard, après celle du mois de juin et du mois d'août dernier. Ça représentera une augmentation globale de près de 10% ces derniers mois, soit 200 € en moyenne par foyer.
RTL 8h12.
Le football en Coupe de France, Monaco rejoint les 8e de finale.
Après avoir battu 3-1 le modeste club de Saint-Privé-Saint-Hilaire, Monaco affrontera Saint-Étienne. Et en Coupe de la Ligue, première demi-finale ce soir, Lyon reçoit Lille. Lyon qui peut compter sur sa pépite, Ryan Cherki. Il a un peu plus de 16 ans et il a déjà tout d'une star du ballon, Willy Mizonas.
Absolument, pas d'erreur dans le calcul. 16 ans et demi et déjà un nom sur toutes les lèvres ici. Cherki, ce gamin qui marque des buts en professionnel, quand nos ados, eux, les claquent dans leur chambre en bazar, sur console en jouant à FIFA. Un phénomène plus précoce encore que le génial Mbappé. Imaginez, Zlatan Ibrahimovic pourrait même être son père. Bref, un dossier assez hors norme à gérer pour l'OL et donc une pépite à protéger. 3 jours après Nantes et cette
prestation XXL de Ryan.
Rudy Garcia compte d'ailleurs asseoir Cherki sur le banc ce soir.
Ce serait dangereux pour son intégrité qu'il joue tous les matchs à cet âge-là. Il faut juste être à l'écoute, regarder comment se comporte le joueur. Il a une carrière à faire. S'il continue à travailler et à écouter, je pense que ce sera gagné. Mais le danger, c'est de penser qu'il est déjà l'un des meilleurs joueurs de la planète, comme on pourrait le laisser entendre quand on entend certains commentaires.
Lyon manifestement décidé à calmer le jeu. Le club, il est vrai, a une certaine expérience en la matière. Expérience contrastée avec Karim Benzema et Atem Ben Arfa, deux formidables talents au destin bien différent.
Willy Mizonas, donc retenez bien son nom, Ryan Cherki.
C'était le journal de Jérôme Florin.
Retenez bien son nom, Jérôme Florin. RTL 8h13.
Notre rendez-vous d'actualité de 8h35. RTL, vous êtes comme ça, vous ouvre les portes de lieux où la rigueur et la discrétion sont les maîtres mots. Imaginez la maison Christian Dior en pleine préparation de son défilé haute couture à Paris. Eh bien, c'est là que nous vous emmenons ce matin, découvrir des hommes et des femmes qui créent des tenues avec les matières et les ornements parmi les plus chers et les plus somptueux du monde pour faire rêver le monde entier et faire rayonner le savoir-faire français en matière de luxe.
Tout est à la bourre. Là, on est en train de finir pour l'essayage de 15h normalement.
L'essayage de 15h et il est plutôt 16h.
Voilà. C'est compliqué.
T'as ton milieu devant qui est décalé.
Il a bougé, ouais, mais alors attends parce que là, il est bon. Ouais. On donne le max là.
RTL, vous êtes comme ça. Au premier rang du défilé Dior, ce sera avec Sophie Orange. Rendez-vous donc à 8h35.